Ce que vous allez entendre à présent est le fruit de 4 séances d'atelier radio menées par l'association Histoire de Dire avec les élèves de la classe de CM de l'école Joseph Reynac à Digne-les-Bains. Un travail à la découverte de leur ville et des personnages phares qui ont fait son histoire. L'ensemble des enregistrements de ce podcast a été réalisé par les enfants eux-mêmes qui avaient été formés à la technique de prise de son.
Je m'appelle Oscar, j'habite rue Maurice Favier.
Bonjour, je m'appelle Manon, je suis en classe CMB.
Je m'appelle Lucas.
Qu'est-ce que tu vois par ta fenêtre de ta chambre?
Bah déjà je vois la fenêtre de mon copain de classe.
Oh là là.
Et le jardin de mon voisin.
Et tu peux me dire ce que tu vois par ta fenêtre?
Je vois le centre de loisirs et c'est tout.
Je m'appelle Marouane. Et j'habite à Champoursin, dans Digne. Je vois la route, les jardins des autres.
Bonjour Melinda, où est-ce que tu habites?
J'habite à l'Hélios, à côté de la Sympathie.
Qu'est-ce que tu vois de la fenêtre de ta chambre?
Je vois un arbre.
Logan, 9 ans.
Est-ce qu'il y a une montagne devant ta maison?
Pas devant, mais à droite.
Je m'appelle Kira, j'ai 10 ans. J'habite à côté de l'école Joseph Reynac.
Tu vois quoi par la fenêtre?
Je vois un école, deux maisons et un arbre.
Je m'appelle Caïs, j'habite avenue des Charrois, j'ai 11 ans.
Bonjour, je m'appelle Isidore, j'ai 11 ans.
Qu'est-ce que tu vois par ta fenêtre?
Je vois une rivière avec des ponts, je vois des oiseaux qui chantent. Je vois un stade avec mes amis qui jouent au foot.
Gaiden.
Je vois une montagne.
Un château et un arbre.
Quel stade?
Le stade de pigeonniers.
Je m'appelle Furkan, j'habite aux Épinettes. Je m'appelle Aiton.
La maison de la voisin.
Un jardin.
La montagne.
Un hôtel.
Le lac.
Et je vois aussi une chapelle.
C'est quoi une chapelle?
Je sais pas comment expliquer. Une église qui est dans une montagne.
Elena Noël.
Vous habitez où?
Dans les Épinettes.
Oui, je m'appelle Aurore.
Et j'habite à la fin du bourg, au Truyat.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on a fait aujourd'hui avec notre classe de CM1, CM2B de l'école Joseph Reynac. On a fait toute une émission en 3 jours qu'on va vous présenter aujourd'hui qui s'appelle Histoire au coin de la rue. Je vais vous faire le sommaire de ce qui va se passer. Aujourd'hui, il y aura plusieurs chroniques. On va vous faire écouter 2 reportages et on a fait une interview avec une représentante du Géoparc d'ici que je vous laisse avec la chronique de Pierre Gassenji. Aujourd'hui, dans Histoire au coin de la rue, le podcast qui raconte Digne-les-Bains, nous allons parler d'un homme qui a donné son nom au boulevard le plus connu de la ville, à un collège, un musée, mais aussi à un cratère lunaire et un astéroïde. Un astronome qui a côtoyé les plus grands scientifiques de la Renaissance. Pour nous raconter cette histoire, je suis avec notre chroniqueur Oscar. Bonjour Oscar.
Bonjour Marouane. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pierre Gassenji. Il est né en 1592 à Chantercier, un petit village voisin.
En 1592, ça fait très longtemps.
Oui, plus de 400 ans au XVIIe siècle. C'était une période où les scientifiques commençaient à mieux comprendre le monde et l'univers. Pierre Gassenji était à la fois philosophe, homme d'église et scientifique.
Il étudiait quoi exactement?
Il s'intéressait à beaucoup de choses, mais surtout à l'astronomie. Les étoiles, les planètes, l'espace.
Donc il observait le ciel.
Exactement, avec des instruments comme des lunettes astronomiques. Par exemple, en 1631, il a observé un phénomène très rare. Le passage de la planète Mercure devant le Soleil. On appelle ça un transit. Gassenji a été le premier à le voir et à le décrire. C'est aussi lui qui a inventé le nom de aurore boréale.
C'est impressionnant. Est-ce qu'il connaissait d'autres scientifiques célèbres?
Oui. Il a par exemple échangé par lettres avec Galilée. Il a même soutenu lors de son procès contre l'Église qui refusait d'accepter que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse.
Mais Gassenji était pourtant un homme d'Église?
Oui, mais avant tout un scientifique. Les faits avant les croyances.
Il me semble qu'il était aussi contemporain du philosophe et mathématicien français Descartes. Celui-ci qui a donné le mot cartésien et qui a inventé la célèbre phrase « Je pense, donc je suis ».
Alors, avec Descartes, c'était plus compliqué. Les relations étaient tendues car ils n'étaient pas d'accord sur plusieurs points. Au final, c'est souvent Gassendi qui a eu raison.
Sur quel point, par exemple ?
Par exemple, Gassendi défendait l'existence du vide et croyait que la matière était composée d'atomes. Descartes n'était pas d'accord et s'est souvent moqué de lui.
Quel est son lien avec notre ville, Digne-les-Bains ?
La ville est très fière de lui. Plusieurs lieux y portent son nom, par exemple un collège, le boulevard, un musée et même une statue sur la place principale.
Et même au-delà de Digne, il me semble.
Exactement. Un cratère sur la Lune et un astéroïde portent son nom.
Merci pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Pierre Gassendi, un scientifique et philosophe de Digne-les-Bains. À bientôt pour une nouvelle histoire au coin de la rue.
À bientôt.
Bonjour, aujourd'hui dans Histoire au coin de la rue, le podcast qui raconte Digne-les-Bains, nous allons parler d'une écrivaine qui a donné son nom à un collège de la ville. Pour nous raconter cette histoire, je suis avec notre chronique Manon. Bonjour Manon.
Bonjour Élie, aujourd'hui je vais vous parler de Maria Brunel. Elle a vécu au début du XXe siècle. Elle était maîtresse d'école et aimait lire, écrire et observer la vie des gens. En 1910, elle prend le nom de son mari, Ernest Borelli, qui était lui aussi enseignant.
Comment est-elle célèbre ?
Elle écrivait des romans et des contes. Dans ses livres, elle racontait la vie des gens dans les villages de Haute-Provence. Elle voulait montrer que la vie des gens simples était aussi intéressante.
Elle connaissait sûrement l'écrivain Jean Gignot, qui vivait à Manosque à la même époque qu'elle.
Oui, et il aimait beaucoup ce qu'elle écrivait. Il l'a même aidée à publier son premier roman.
Je crois que les deux guerres mondiales ont marqué la vie de Maria Borelli.
Exactement. Son mari revient gravement blessé de la Première Guerre mondiale. À cette époque, elle devient militante pacifiste.
Qu'est-ce que ça veut dire, militante pacifiste ?
Ça veut dire qu'elle est contre la guerre et la violence et qu'elle essaie de convaincre les autres que la paix est toujours la solution.
Mais ça ne dure pas.
Non, en 1933, les Borelli s'installent à Digne, mais Maria est de plus en plus déçue par la politique. Elle finit par prendre sa retraite, se séparer de son mari et arrêter de publier des livres.
Quand la Seconde Guerre mondiale commence, que fait Maria Borelli ?
Elle est devenue résistante. Elle a accueilli chez elle des réunions et a même organisé avec son fils l'évasion de son mari capturé par la Gestapo.
C'était une femme déterminée.
Oui, très courageuse, c'est dangereux d'être résistant.
Et après la guerre ?
Elle devient amie avec Alexandra Davinel, une aventurière vivant à Digne et se tourne vers la spiritualité.
Qu'est-ce que c'est la spiritualité ?
C'est réfléchir au bout de la vie, à ce qui est le plus important, au bien et au mal, aux croyances.
D'accord. Et il y a des lieux à son nom à Digne ?
Oui, le collège Maria Borelli, où les CM2 de la classe iront l'an prochain.
Merci pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Maria Borelli, une écrivaine déterminée et courageuse qui a vécu à Digne. À bientôt pour une nouvelle histoire au coin de la rue.
À bientôt.
Au coin de la rue. Un podcast qui parle de Digne.
Toujours dans Histoire au coin de la rue, le podcast qui raconte Digne-les-Bains, nous allons parler d'un homme grâce à qui roulent les automobiles du monde entier. Pour nous raconter cette histoire, je suis avec Ayton. Bonjour Ayton.
Bonjour Ellie. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Alphonse Baudrochat. Il est né à Digne en 1815.
Et quel était son métier ?
Il était ingénieur. Un ingénieur invente ou améliore des machines ou des techniques pour résoudre des problèmes.
Donc, il a inventé des choses.
Oui, et son idée la plus célèbre concernait les moteurs.
Les moteurs de voitures, par exemple ?
Oui, exactement. Les moteurs des voitures, des camions ou des motos.
Qu'est-ce qu'il a inventé exactement ?
En 1862, Alphonse Baudrochat a imaginé le moteur à quatre temps.
Le moteur à quatre temps, ça veut dire quoi ?
C'est la manière dont fonctionne un moteur de voiture. Il y a quatre étapes qui se répètent.
Tu peux expliquer plus simplement, s'il te plaît ?
Bien sûr. D'abord, le moteur aspire de l'air et de l'essence. Ensuite, il compresse ce mélange. Après, il y a une explosion qui crée le mouvement. Et à la fin, le moteur rejette le gaz. Et ça recommence tant que le moteur est allumé.
Et quel est l'avantage de ce système ?
Comparé aux anciens moteurs, ça consomme moins d'essence. Ça pollue moins, ça vibre moins et c'est plus puissant.
Que des avantages ! Ce système est encore utilisé aujourd'hui ?
Oui, on le trouve dans toutes les voitures qui roulent à essence.
Incroyable ! Et quels sont les liens avec notre ville, Digne-les-Bains ?
Alphonse Baudrochat est né ici, à Digne.
Donc toutes les voitures à essence du monde roulent grâce à un Dinois.
On peut dire ça. Il est considéré comme un inventeur important dans l'histoire de la mécanique.
Et il y a des lieux à son nom à Digne ?
Plusieurs. Il a donné son nom à une rue du centre-ville, à un pont, à un immeuble de la zone commerciale, ainsi qu'au lycée professionnel. Et à l'entrée de la ville, il y a un mémorial qui représente son visage taillé dans une plaque de métal.
Merci pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Alphonse Baudrochat, un inventeur digne de Digne qui a fait avancer le monde. À bientôt pour une nouvelle histoire au coin de la rue.
Histoire au coin de la rue. Un podcast fait par les élèves de l'école Joseph Reynac.
Là, on vient de sortir de l'école et on va aller dans la rue et on va aller poser des questions aux gens sur déjà la ville, comment s'est développé Digne, comment ils étaient avant quand ils étaient petits ou quand ils étaient grands. Et après, on a pris des photos de Digne avant et on va les comparer à la vue d'aujourd'hui.
On est au boulevard Victor Hugo. Il y avait beaucoup de trucs qui sont changés.
La maison qui est là, pourquoi elle n'est pas sur la photo ? Est-ce que vous avez compris ? En fait, est-ce que c'est un style de maison ancien, ça ? Alors oui, à votre âge, ça peut paraître ancien. Mais ça, c'est typiquement ce qu'on construisait dans les années 60, 70, 80. Et la photo que vous avez, elle date de bien avant ça. Donc avant, ici, il n'y avait rien du tout.
Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez sur la photo ?
Est-ce que ça a changé la différence entre la photo qu'il y a et ce qui est la venue d'aujourd'hui. Je trouve que ça a quand même bien changé. Hein. On reconnaît un peu quand même les façades des immeubles. On voit des personnes qui sont en vélo. Mais on reconnaît un petit peu l'avenue de Digne. C'est le boulevard Victor Hugo, c'est ça ?
Oui. Est-ce que vous habitez ici quand c'était comme ça ?
Ah non, à cette époque-là, moi j'étais pas né.
Et vous, c'est quoi votre endroit préféré à Digne ?
J'aime bien le jardin aux papillons, le musée promenade. Voilà. Okay. On a une belle vue quand on est là-haut et c'est sympa. Voilà.
Okay. Merci.
Bonne journée les enfants.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.
On est à la place à côté du boulevard Gassendi.
C'est la place Générale de Gaulle. Avant, il y avait des lampadaires très proches de la statue et maintenant, ils sont très loin de la statue.
Est-ce que vous venez jouer des fois sur cette place?
Oui.
Et vous faites quoi sur cette place, vous?
On jette des avions et tout. Et on joue à touche-touche, on joue à cache-cache.
Ah, je viens du conservatoire.
J'ai fait du vélo aussi avec des trottinettes.
Moi, je vais au marché ici.
Tous les après-écoles qu'on a terminées, je viens à la place.
Des fois le mercredi, je viens quand je suis pas au centre aéré, je viens pour faire le marché parce qu'il y a le marché ici. Et voilà.
C'est cool pour jouer, il y a de l'espace.
On est en haut de la place.
On est en haut de la place. Il y a les statues de Pierre Gassendi.
Est-ce que tu peux dire les différences qu'il y a entre la photo là et le paysage qu'on voit aujourd'hui?
Il y a la fontaine et là, il n'y a pas.
Avant, il y avait une grande fontaine, ouais.
Oui.
Ouais.
Une très grande.
Vous pouvez vous présenter?
Alors, je suis Salère. Je suis né à Digne, j'ai grandi à Digne. Et le cours des arrêts, comme c'est marqué ici, ça a été le berceau de mon enfance, où j'ai grandi, où j'ai énormément joué. C'était quelque chose de magique pour nous qui étions enfants, d'avoir ces deux grands jets d'eau avec nous. Hein. Moi, j'avais un papa qui jouait aux boules. Et puis après, très 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 jeune, donc j'ai commencé à jouer aux boules, puis après ça a été une passion. Et surtout l'été, donc j'y étais du matin jusqu'au soir en cours des arrêts. Et quand on faisait des pauses, ce qu'on faisait, c'est qu'on jouait. Déjà, on se rafraîchissait avec les jets d'eau, donc on allait un petit peu se mouiller. Et avec les boules, on s'amusait à les faire tourner tout autour du bassin. Et puis pour nous, c'était une attraction et puis c'était une façon de jouer également. Je pense que les bassins ont été enlevés à partir du moment où il y a eu le projet de faire le parking souterrain. Nous, ça nous a quand même peiné, attristé, parce que jeune, eh bien, c'est une partie de notre enfance qui partait. Même après en grandissant, on a continué à vivre avec ses souvenirs. Et puis, on continue à être la mémoire également de ce cours des arrêts avec ces deux jets d'eau, parce qu'ils étaient grands. En parler avec tous les enfants, avec toutes les personnes qui ont pu voir des photos d'époque aussi. On n'avait pas beaucoup de moyens, mais on avait des choses simples avec lesquelles on jouait. Donc, on s'amusait. Donc, vous connaissez aussi ce jeu, c'est le trap-trap. On se court derrière donc pour s'attraper. Et bien là aussi, c'est une façon de pouvoir tourner autour du jet d'eau, de jouer à trap-trap. Mais ça a été que des bons souvenirs de mon enfance. Voilà. Bon après-midi.
Merci.
Et bonne classe.
Ah non, on peut remonter au Lido. Le Lido, la grande fontaine. On va y aller ?
On est devant le musée Gassendi. Brasserie, Lido. C'était quoi le Lido ?
Le Lido, c'était un restaurant avant.
Ah oui ?
Et c'était Philippe Ploche qui le tenait, avant de prendre l'étoile et après il est allé au symposium.
C'était le cinéma ?
Non, le cinéma, c'était le top avant. Le top, il était au-dessus, le Lido en dessous, et après il y avait le cinéma, le top, où il y avait trois salles de cinéma.
C'était un restaurant gastronomique ?
Non, c'était une brasserie. Ils sont en train de construire une salle de spectacle. Ils ont tout cassé dans le cinéma pour faire des salles de spectacle.
Ok, c'est intéressant.
Oui, j'ai connu qu'il y avait le cinéma.
Quand il y avait le cinéma à Digne ?
Alors, c'était bien qu'il y avait le cinéma à Digne. Il y en avait même deux. Il y avait donc le top, où il y avait trois salles ici, et le Cinoche sur le boulevard
Victor Hugo.
C'était des jolies salles. Il y avait des salles à étage. Il fallait monter pour aller voir la plus grande salle. Et moi, j'ai regardé, je me rappelle, le premier film de Pokémon, quand il est sorti, au top. C'était il y a longtemps, je pense que c'était avant les années 2000. Hein.
T'avais quel âge ?
Je devais avoir 8 ans, 9 ans, c'était vraiment...
Oui.
Enfin, on était allés avec les copains, on était tous allés voir le film Pokémon et on était ressortis avec notre carte Mew, on était tous très contents.
Intéressant.
On est devant la grande fontaine de Digne. Alors moi, quand je suis arrivé il y a 10 ans, elle était couverte de mousse. Depuis, elle a été nettoyée, on la reconnaît un petit peu mieux. Et donc, en fait, on a cette petite plaque qui nous explique. Donc, il y a une source ici qui s'appelle les 5 sols. Et que le but de cette fontaine, c'était d'améliorer l'arrivée d'eau pour les gens de Digne. Parce qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas son petit robinet à la maison avec l'eau qui arrivait. Hein. Donc, il fallait venir aux fontaines. Et donc, elle a été construite avec des pierres de Marcousse et de Barcelonnette en 1828. Donc elle a bientôt 200 ans, dans 2 ans. Voilà. Ce qu'on dit, c'est que cette fontaine, c'était un lieu de vie de Digne, où en fait beaucoup de monde venait, il y avait du monde qui tournait autour. Alors que maintenant, quand vous la voyez, bah, peut-être on va en parler, est-ce qu'elle est vraiment placée dans un endroit où... Là, elle est un peu isolée, quoi. Elle n'est pas trop visitée.
Ouais.
Ah oui, là, on voit la cathédrale. Et si vous vous retournez, regardez. Qu'est-ce qu'on voit là-bas?
Les oiseaux.
La cathédrale du bourg. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? La cathédrale de Saint-Jérôme. Donc à Digne, il y a 2 cathédrales. Et est-ce que quelqu'un se rappelle de ce qu'est une cathédrale?
C'est là-bas où il y a le pape et...
Ah, pas le pape.
Non, c'est
mais...
le curé.
Ah, plus que le curé, mais moins que le pape. Non, alors à Digne, on parle souvent...
L'évêque.
Ah, excellent, l'évêque. Et c'est pour ça qu'à Digne, il y a plein de choses qui s'appellent l'évêché. On a la place de l'évêché, le massif des 3 évêchés. Voilà. Parce qu'à Digne, c'était un endroit où il y avait un évêque. Et quand il y a un évêque, il y a une cathédrale. Et bien à Digne, il y a 2 cathédrales.
Et du coup, il y avait 2 évêchés.
Et à votre avis, la plus ancienne, c'est laquelle? Celle du bourg ou celle...
Celle du bourg.
Eh oui.
Moi, je suis pas vieux.
Toi, t'habites ici?
Ouais, dans le bourg.
Ah ouais? Mais et oui. Et c'est quoi ton endroit préféré dans le quartier, toi?
Ben, en haut de chez moi, je dois tourner à droite. J'avance. Après, je tourne à gauche. Après, il y a un terrain de foot géant. Où parfois, je joue avec des amis.
Aujourd'hui, dans Histoire au coin de la rue, le podcast qui raconte Digne-les-Bains, nous allons parler d'une espionne. Pour nous raconter cette histoire, je suis avec notre chroniqueur Marwan. Bonjour Marwan.
Bonjour Eitan. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Christine Granville, une célèbre espionne de la Deuxième Guerre mondiale.
Peux-tu nous la présenter?
Bien sûr, Christina Skarbek est née en 1908 en Pologne.
Pardon, je te coupe, mais la chronique, c'est sur Christine Granville.
Tout à fait, Christine Granville, c'est son nom d'espionne. Son vrai nom était Christina Skarbek.
D'accord, je comprends mieux, je te laisse continuer. Donc elle est née en 1908 en Pologne?
Oui, quand la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939, son pays a été envahi par l'Allemagne nazie. Alors elle a décidé d'aider à combattre les ennemis. Elle est devenue espionne pour les Britanniques.
Qu'est-ce que c'est un espion exactement?
Un espion, c'est une personne qui récupère des informations secrètes pour aider son pays. Christine Granville transportait des messages, aidait des résistants et réalisait des missions en France, en Égypte et en Europe de l'Est.
Quel genre de mission?
Une de ses missions s'est passée à Digne vers la fin de la guerre en 1944.
Que s'est-il passé?
3 résistants très importants se sont fait arrêter par la Gestapo, la police nazie. Ils risquaient d'être exécutés.
C'était grave.
Oui, alors Christine Granville a décidé d'agir. Elle est partie de Seine avec son vélo pour venir négocier leur libération.
Mais c'est très dangereux. Elle n'avait pas peur?
Oui, elle risquait elle aussi de se faire arrêter.
Et une fois arrivée, elle a fait quoi?
Elle a contacté un gendarme français qui travaillait avec la Gestapo et l'a menacé.
Qu'est-ce qu'elle lui a dit?
Elle lui a dit que les Allemands allaient bientôt perdre la guerre et que s'ils ne libéraient pas les prisonniers, ils seraient sûrement punis à la libération. Mais elle lui a proposé 2 millions de francs en rançon.
Et il a accepté? Et l'argent, elle l'a trouvé où?
Oui, il l'a accepté. Alors elle est retournée à Seine avec son vélo, a appelé son responsable et dans la nuit, un avion lui a parachuté l'argent dans un sac en caoutchouc.
Et comment ces personnes ont été sauvées?
Le gendarme lui a présenté un traducteur de la Gestapo. Il avait les clés de leur cellule pour les libérer. Il a accepté contre une partie de l'argent et la promesse de s'échapper avec eux en Italie.
C'est vraiment une histoire incroyable. Elle a réussi à les sauver. Elle était vraiment courageuse.
C'est vrai. Plus tard, elle racontera qu'elle était tellement concentrée sur sauver ses amis qu'elle n'a pas pensé au danger pour elle. Elle aurait pu se faire arrêter et exécuter avec eux.
Une véritable héroïne. Et il y a un lieu à son nom à Digne?
Oui, on a donné son nom à l'école du quartier des Ferréoles. Mais c'est dommage, beaucoup continuent à l'appeler école des Ferréoles. Elle mérite qu'on utilise son nom.
C'est vrai, mais pourquoi on ne l'a pas appelée l'école Christina Skarbek, son vrai nom?
Parce qu'à Digne, elle était connue comme Christine Granville. Et après la guerre, elle a obtenu la nationalité britannique et a choisi de garder son nom.
Merci pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Christine Granville, une espionne courageuse qui a marqué l'histoire ici à Digne. Maintenant, nous n'allons pas encore parler d'un personnage, mais d'un problème qu'on a rencontré en préparant nos histoires. Pour nous en parler, je suis avec nos chroniqueurs, Élie, Marouane et Manon.
Bonjour.
Alors, quel est le problème ?
Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y a plus d'hommes connus que de femmes, et ça se remarque dans les noms de lieux. À Digne, on a trouvé des centaines de lieux qui portent des noms d'hommes, mais à peine une vingtaine avec des noms de femmes.
Ça veut dire que les femmes sont moins intelligentes ou moins importantes ?
Pas du tout, mais les noms de lieux parlent souvent des personnalités d'autrefois.
Pourtant, il y a toujours eu des femmes, même autrefois ?
Évidemment, sinon on ne serait pas là. Mais autrefois, les femmes n'avaient pas accès aux mêmes avantages, ni à la même instruction que les hommes. Elles avaient moins de droits.
Comment ça ?
Par exemple, jusqu'à 1920, les maîtresses d'école étaient moins payées que les maîtres parce qu'on pensait que le travail d'une femme était moins efficace que celui d'un homme.
C'est vraiment injuste. Et pour les élèves, ça se passait comment ?
Il y avait des écoles de filles et des écoles de garçons avec des programmes différents. Les écoles de filles les formaient surtout à être des femmes au foyer. Ce n'est qu'en 1924 que les filles ont eu accès au même baccalauréat que les garçons.
On comprend que ça ne devrait pas être facile pour une femme de se faire connaître, mais ça s'est arrangé depuis.
Oui, en 1944, elles ont eu le droit de voter et en 1946, elles ont enfin été déclarées égales aux hommes. Mais on est encore loin d'avoir atteint une véritable égalité.
Comment ça ?
Aujourd'hui, des stéréotypes continuent d'exister, comme le rose la danse, c'est pour les filles, et le bleu le foot pour les garçons.
Et c'est drôle, parce qu'aux États-Unis, où va avoir lieu la Coupe du Monde, le foot est considéré comme un sport de filles.
Tout à fait. Mais ce qui est moins drôle, c'est qu'il y a des idées comme ça qui empêchent encore les filles de faire certaines études ou d'avoir certaines responsabilités.
Ah bon ? Quelle idée, par exemple ?
Par exemple, à l'école, beaucoup pensent que les sciences et les maths sont des matières de garçons et que les filles sont plus fortes en français et en art.
Et ce n'est pas vrai ?
C'est ce qu'on a l'impression de voir. Mais toutes leurs recherches ont prouvé qu'il n'y a aucune différence entre les possibilités des filles et des garçons dans ces matières.
Alors pourquoi on observe ces différences ?
C'est juste que tout le monde y croit tellement fort depuis si longtemps que les filles et les garçons finissent par y croire aussi. Et la confiance en soi, c'est important pour apprendre.
Donc, même si ça évolue, c'est plus compliqué pour une femme de marquer son nom dans l'histoire.
Oui, et même quand elles font de grandes choses, on a tendance à les minimiser, ou à pire, les attribuer à des hommes.
Et donc, quelques dinoises ont quand même réussi à se faire connaître.
Oui, heureusement. Des femmes héroïques et courageuses. Vous avez déjà entendu les histoires de Christine Granville, l'espionne, Maria Borelli, la conteuse résistante. Et on vous invite à écouter la chronique sur Alexandra Davinel dans la suite.
Merci pour toutes ces explications. On espère bientôt trouver plein de noms de femmes au coin de la rue. Histoire au coin de la rue.
Un podcast fait par les élèves de l'école Joseph Reynac.
Nous allons écouter le podcast qui parle de Alexandra Davinel.
Une chanteuse aventurière et une exploratrice qui a vécu plus de 100 ans. Je suis avec notre chroniqueur Mélinda.
Bonjour Elena. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Alexandra Davinel, une femme incroyable qui a eu une vie longue et riche entre le 19e et le 20e siècle.
Qui était Alexandra Davinel ?
Alexandra Davinel était une chanteuse, une exploratrice, une écrivaine et une grande voyageuse. Elle est née en 1868 et elle est morte en 1969. Elle a vécu plus de 100 ans. Elle aimait découvrir le monde et comprendre les cultures et les religions d'autres pays.
Chanteuse et exploratrice, ça n'est pas courant.
Quand elle était jeune, elle était chanteuse d'opéra. On appelle ce métier cantatrice. Elle avait une très belle voix. Mais pendant sa carrière de chanteuse, elle rêvait déjà de voyager et de découvrir l'Asie.
Et donc, elle a fini par réaliser son rêve ?
Oui, à une époque où les voyages étaient très longs et parfois dangereux, elle est partie en Inde, en Chine et surtout au Tibet, une région très montagneuse près de l'Himalaya.
Et qu'a-t-elle fait de si spécial là-bas ?
En 1924, elle a réussi un exploit incroyable. Elle est devenue la première femme européenne connue à entrer dans la capitale du Tibet.
Pourquoi c'était un exploit ?
Parce qu'à cette époque, la ville était interdite aux étrangers. Pour entrer, Alexandra Davinel s'est déguisée en mendiante tibétaine.
C'est une vraie aventurière. Et elle faisait ses voyages toute seule ?
Pas toujours. Pendant ses aventures en Asie, elle a rencontré un jeune garçon tibétain nommé Yongden. Elle l'a adopté comme son fils. Ils ont beaucoup voyagé ensemble et Yongden l'a aidé à comprendre la langue, les traditions et la culture du Tibet.
On dit aussi qu'elle était féministe. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Être féministe, cela veut dire penser que les femmes doivent avoir les mêmes droits et les mêmes possibilités que les hommes. À une époque où les femmes restaient souvent à la maison, Alexandra Davinel voyageait seule, travaillait, écrivait des livres et décidait de sa vie elle-même. Elle prouvait que les femmes pouvaient faire les mêmes choses que les hommes.
Sa vie était très riche. Qu'est-ce que tout ça a rapporté à la société ?
Elle a écrit beaucoup de livres pour raconter ses voyages et expliquer les traditions d'Asie, comme le bouddhisme et la méditation. Grâce à ses livres, beaucoup de personnes en Europe ont découvert les cultures orientales. Elle a aidé les gens à mieux comprendre le monde et à être plus curieux des autres.
Elle devait avoir une sacrée personnalité.
Oui, elle était très courageuse, curieuse et indépendante. Elle vivait simplement et avait un très grand esprit d'aventure.
Et pour finir, quel est son lien avec Digne-les-Bains ?
Elle a vécu une grande partie de sa vie à Digne-les-Bains, dans sa maison appelée Tamsen-dong, ce qui veut dire forteresse de la méditation. Aujourd'hui, cette maison est devenue un musée où l'on peut découvrir sa vie et ses souvenirs.
Et il y a aussi des lieux à Digne qui portent son nom.
Oui, il y a le musée dont on vient de parler, mais aussi un lycée au centre-ville.
Merci pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Alexandra Davinel, une aventurière à la vie bien remplie qui a vécu à Digne. À bientôt pour une nouvelle histoire au coin de la rue.
À bientôt.
Maintenant, nous allons écouter le podcast qui parle de Joseph Reynac.
Bonjour, aujourd'hui dans Histoire au coin de la rue, le podcast qui raconte Digne-les-Bains, nous allons parler d'un homme qui a donné son nom à une avenue et à une école qui a eu un rôle dans une célèbre affaire historique. Pour nous raconter cette histoire, je suis avec notre chroniqueur Caïs. Bonjour Caïs.
Bonjour Sophia, aujourd'hui je vais vous parler de Joseph Reynac. Il est né en 1856 à Paris, mais au cours de sa vie, il a créé un lien fort avec la ville de Digne, au point d'en devenir le maire.
Quel était son métier et ses activités ?
Joseph Reynac a été député des Basses-Alpes, l'ancien nom des Alpes de Haute-Provence. Il était aussi journaliste, écrivain, comme je viens de le dire, maire de Digne.
Donc, il travaillait pour le gouvernement ?
Pas tout à fait. Les députés sont élus par les gens de leur région. Leur rôle est de choisir et de voter les lois. Il travaille à l'Assemblée nationale à Paris.
Et pourquoi est-il connu ?
Il est surtout connu pour avoir défendu Alfred Dreyfus.
Et qui était Alfred Dreyfus ?
C'était un officier juif de l'armée française qui avait été accusé d'espionnage. Mais en réalité, il était innocent. C'était une injustice qu'on a appelée l'affaire Dreyfus.
Et Joseph Reynac l'a aidé ?
Oui, Joseph Reynac, en tant qu'avocat, l'a défendu. en tant que journaliste a écrit des articles sur l'affaire et en tant que politicien a agi en sa faveur.
Donc, il se servait de toutes ses activités pour défendre ce qui semblait juste.
Exactement, il croyait beaucoup à la justice, à la liberté et la démocratie.
Et quel est son lien avec Digne-les-Bains ?
Joseph Reynac a été élu député de notre département pendant de nombreuses années. À la fin de sa vie, il a été maire de Digne pendant 2 ans. Il est décédé à 64 ans en 1921, pendant son mandat.
Rappelez-nous les lieux qui portent son nom.
À Digne-les-Bains, il y a une avenue Joseph Reynac et notre école du centre-ville porte son nom.
Merci pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à Joseph Reynac, un journaliste, avocat et homme politique de Digne-les-Bains. À bientôt pour une nouvelle histoire au coin de la rue.
À bientôt.
Est-ce que vous connaissez des gens qui sont encore vivants et qui sont connus ?
Cyril Ferraud, animateur de télévision, a grandi à Digne. Alain Bogossian, champion du monde en 1998, né à Digne, a gagné la Coupe du Monde avec Zizou. Et Grégory Montel, acteur de cinéma, il a été dans notre école.
Au coin de la rue, un podcast qui parle de Digne.
Maintenant, on va écouter la suite du reportage sur les rues de Digne.
On est à la préfecture.
On peut percevoir qu'il y a beaucoup de maisons qui ont été remplacées par l'hôtel de département. Entre-temps aussi, il y a la préfecture qui a été construite. On peut voir qu'il y a plein de nouvelles plantations, des panneaux. Des drapeaux de l'Union Européenne, le drapeau de la France, tout ça. Et aussi le drapeau des Alpes de Haute-Provence. On voit toujours la cathédrale. Si. Il n'y a plus les fils à linge qui passent entre les maisons pour le linge, pour que ça sèche, tout ça.
Et aussi, des fois, c'est par là que je prends la l'école avec, parce que j'aime bien par ici, la route. C'est là, descendre là-bas, parce que des fois, je vais en vélo, je vais en skate, c'est trop bien.
On est où, là ?
Je sais pas. On est au rond-point, vers centre-ville.
Ouais.
Le boulevard Thiers. Des restaurants, des arbres, une piscine, un cinéma, un parking.
Moi j'y vais parce que je vais à la piscine et je passe ici pour aller à la boucherie, au pigeonnier, au stade Jean Roland. Des fois je vais au cinéma. Voilà.
Moi j'aime le parc.
J'aime les piscines.
Là, on est dans Digne, au boulevard Gassendi, à l'entrée de la ville qui est ici devant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il n'y a plus de personnes qui se baladent en vélo,
ni en charrette.
Il y avait plein de ronds-points. Là, avant, il n'y avait pas de panneaux, et là, maintenant, il y en a. Il y a la Bléone ici.
Il n'y a plus de charrette qui passe par le pont. Et les gens ne peuvent plus passer sur la route. C'est les voitures. Maintenant, il y a des voitures et vers le monument aux morts. Il y avait un canon, mais il n'y est plus.
C'est les noms des morts.
Qui sont morts pour la patrie.
Pendant la guerre mondiale.
Il y a beaucoup de noms.
Mais sur la photo, il y a un pont, mais il n'y a pas l'autre. Du coup, ça veut dire que l'autre, il a été construit bien après. Du coup, c'est celui-là, là-bas, qui a été fait en premier.
Ouais, alors comment on sait que celui-là, c'est le plus ancien ?
Parce que sur la photo, on voit qu'il y a les arches dessous, là. Voilà.
Lui, il fait plus ancien.
parce qu'il est un petit peu plus marron, j'ai l'impression.
Ouais. Et puis celui-là, il est fait avec quoi?
Des pierres.
Des pierres,
des grosses pierres carrées.
Bah, du béton. Ouais, c'est ça, du béton. Et vous savez, quand les photos... Vous voyez, c'était à l'époque, les photos étaient en noir et blanc. Donc ce qu'on sait pas, c'est quelle était la couleur des barrières.
Ouais, du coup, on peut pas savoir si, par exemple, elles étaient marron, grises.
Et du coup, ça se trouve, là, elles étaient repeintes.
Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait pas beaucoup de voitures à l'époque aussi. Bah, parce qu'en fait, c'était super dangereux, parce que quand il y avait les feux rouges, feux verts, comme tout était en noir et blanc, et ben on pouvait pas savoir si c'était rouge ou c'était vert.
Donc ça veut dire...
Non, c'est pas vrai, je dis des bêtises. Le monde était en couleur, même si les photos étaient en noir et blanc, on est bien d'accord. Hein.
Ah oui, je sais pas si c'est vraiment en noir et blanc, moi.
Moi, je préfère Digne maintenant qu'autrefois.
Pourquoi ?
Il n'y avait pas beaucoup de choses là à Digne ici.
Moi aussi, j'aime bien aujourd'hui. Donc c'est très bien. Maintenant, il y a les véhicules, le transport et tout.
Alors, là, on est au bord de la Bléone, au niveau de la gare routière. Et donc là, on a un petit ruisseau qui se jette dans la Bléone et qui est sous nos pieds.
C'est le Mardaric.
C'est le Mardaric. Est-ce que tu te rappelles pourquoi on l'appelle le Mardaric?
Parce qu'en fait, son vrai nom, c'est le Merdaric, parce qu'on mettait tous les déchets dedans.
Ouais, ça, quand il faisait des crues, il y avait un peu toutes les saletés des champs qui se mettaient dedans, exactement. Alors, on regarde la photo. Sur la photo, on est où exactement, tu penses, là?
On est par là, là.
Et qu'est-ce qui a changé? Parce que qu'est-ce qu'on voit ici, là?
Bah, on a recouvert le Mardaric, maintenant on ne le voit plus.
Ouais, c'est ça, parce que là, il est dans... Est-ce que tu sais comment ça s'appelle quand... Voilà, on a créé un canal, le Mardaric
qui
coulait dedans.
Le canal.
Et qu'est-ce qu'il y avait là où il y a la gare routière?
Des champs.
Il y avait des... Vas-y.
Des champs.
Il y avait des champs à la place de la gare routière, exactement. Et le Mardaric, ben maintenant, qu'est-ce qu'il y a au-dessus?
La gare routière.
Une route.
La gare routière.
Ouais, les routes, la gare routière, voilà. Voilà. Est-ce que vous savez quel problème il y a eu très récemment avec le Mardaric? Il y avait des panneaux sur l'avenue des Fontainiers.
Ça a un peu endommagé la route et il fallait pas passer si on avait un camion trop lourd.
Voilà, donc il a fallu faire des travaux de consolidation, exactement.
On est à la fontaine de la rue Colonel Payan.
Payan, je crois.
Payan. Oui, Payan. Alors, déjà... à droite de l'image, il n'y avait pas de pharmacie, et là il y en a une. À gauche, en haut, il y a un hôtel, 2 étoiles, et là il n'y en avait pas. Il y a la fontaine.
Ouais.
Mais par contre, il n'y a pas le panneau sur la fontaine.
Ah oui.
Et il y a aussi ça, le casino. Il l'est toujours.
Ici, bah, j'aime bien aller à 8 à 8. Pour acheter des goûters pour moi.
Moi, c'est déjà les magasins, les boutiques. Et après, je peux voir Yazid par ma fenêtre. Voilà. Yazid, il habite là et... devant le grand café et moi, j'habite derrière le grand café.
À Digne, je crois que vous avez déjà vu des panneaux avec le logo Géoparc. Maintenant, vous allez entendre Maëla Levine qui va vous expliquer ce qu'est un Géoparc.
Dans Histoire au coin de la rue, le podcast qui raconte Digne-les-Bains, nous n'allons pas vous présenter un personnage mais un parc. Et pour nous raconter cette histoire, je suis avec un de ses représentants.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je suis Maëla Levigne, je suis chargée de médiation scientifique et culturelle au Géoparc de Haute-Provence.
Qu'est-ce qu'est le Géoparc ?
Alors le Géoparc, en premier, c'est d'abord une zone géographique où la géologie est vraiment fantastique. Alors, elle peut être fantastique de plein de façons, elle peut être rare, elle peut être très jolie, ou elle peut être intéressante scientifiquement. Donc c'est une zone où la géologie est là, et on va pouvoir en parler et la mettre en connexion avec tout ce qui nous entoure, avec la biodiversité, avec l'architecture, avec aussi eh bien, des loisirs peut-être. Et donc on va mettre en commun tous les patrimoines qui sont liés au patrimoine géologique. Donc c'est ça un géoparc, c'est quelque chose qui, bah, on se sert de la géologie pour parler de plein d'autres choses qui nous animent et qui nous font vivre, et sur lesquelles bah, les gens habitent et bah, partagent tous ces patrimoines.
Combien y a-t-il de géoparcs dans le monde ?
Alors les géoparcs, comme ça intéresse vraiment plein de gens, il y en a eu plein dans le monde. Aujourd'hui, on en a 229, donc ça fait beaucoup beaucoup. Et tous les ans, eh bien, on en remet des nouveaux parce que bah, y a des zones qui sont intéressantes au niveau géologie et on fait vivre ce patrimoine-là à travers le monde entier.
Pourquoi créer un géoparc autour de Digne ?
Alors le géoparc autour de Digne, bah, il fait sens parce qu'on a une géologie incroyable. Je pense que certains vous connaissent des éléments géologiques particuliers. Je pense notamment à la dalle aux ammonites, que peut-être vous avez déjà eu le plaisir de visiter. Mais il y a aussi bah, le vélodrome, il y a la lame de Facibel, il y a les clus de Barle. Donc plein de zones géologiques qui sont importantes pour que les scientifiques puissent en apprendre un peu plus sur notre géologie tout autour.
Quelle est la particularité du géoparc de Haute-Provence ?
Le géoparc de Digne, en fait, il est particulier parce qu'il se trouve à la frontière de plusieurs zones. On a d'un côté la Provence et d'un autre côté les Alpes. Et les deux se rencontrent à ce niveau-là. Et on peut parler de la géologie de plein de façons. On peut parler bah, de la façon dont se forment les roches avec la sédimentation. Et on peut parler aussi de la tectonique des plaques avec la formation des Alpes. Et tout ça se rencontre dans cette zone-là et nous offre une richesse géologique exceptionnelle qu'on peut aller voir directement bah, depuis Digne ou depuis les autres villages du géoparc.
Quand est-il créé ?
En fait, le géoparc de Provence, c'est le premier géoparc au monde. Il est né avec la réserve géologique, avec la création de la réserve géologique qui existe toujours aujourd'hui, donc en 1984. Mais ensuite, il a été labellisé géoparc en 2000. Mais ensuite, il y a encore une autre date, en 2004, où il a été mis sous le label UNESCO. Et donc là, on parle d'un géoparc mondial UNESCO, le géoparc mondial UNESCO de Haute-Provence.
Que représente le logo du géoparc ?
Ce logo rond, il fait référence à plusieurs choses. Avec rond, avec une petite spirale, eh bien, ça représente un objet géologique emblématique du géoparc, l'ammonite, bien sûr, rond avec cette spirale. Mais il fait aussi écho au logo des géoparcs mondiaux UNESCO, et donc qui est également rond avec une petite vague. Et aussi, il fait appel au logo de la réserve géologique de Haute-Provence, où on pouvait également observer une ammonite.
Qu'est-ce que ça a changé pour Digne et ses alentours, ainsi que pour ses habitants ?
Alors, le géoparc, il est utile à ses habitants. Déjà, parce qu'il permet de s'apercevoir des connexions entre les patrimoines. Le patrimoine géologique, le patrimoine de la nature, le patrimoine immatériel aussi, avec les contes et les légendes. Donc, on fait vivre le patrimoine sur lequel les gens habitent. Mais pas que, parce qu'il permet aussi d'apprendre des choses. Dans notre musée, le musée promenade, on a aussi l'aspect divertissement. Vous pouvez participer aux événements, aux fêtes, aux célébrations que proposent le musée promenade et le géoparc sur tout le territoire. Et aussi, eh bien, vous pouvez apprendre, puisque vous pouvez venir participer à des ateliers, que ce soit au musée promenade ou même dans vos classes. Et donc tout ça, on permet d'apprendre ensemble. C'est pour ça que bah, le géoparc est utile aussi à ses habitants. Et par contre, bah, il peut aussi être utile même à vos parents, aux grandes personnes, puisqu'il fait vivre le territoire de façon économique. Il y a des gens qui produisent des choses, il y en a qui cultivent des plantes, il y en a qui permettent de faire du tourisme. Et donc tous ces gens-là aussi bah, vivent et travaillent pour le territoire, pour les patrimoines et pour le géoparc.
Quels sont les projets futurs du géoparc ?
Alors au géoparc, on ne s'arrête jamais. Les trois grands projets qui nous animent, eh bien, c'est déjà la réfection du musée. Ça veut dire qu'on va faire des grands, grands travaux parce que bah, notre musée, il a fait son temps. Et puis bah, aujourd'hui, on veut un peu le transformer et présenter d'autres choses de façon un petit peu différente. En attendant ce nouveau musée, eh bien, on va travailler à essayer de former une réserve internationale de ciel étoilé. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une zone où l'on peut observer le ciel de façon privilégiée parce que bah, l'éclairage nocturne est un petit peu diminué et on peut observer ainsi plus facilement les étoiles, mais aussi bah, la biodiversité, les animaux qui vivent la nuit. Et donc on peut, grâce à ce projet de réserve internationale de ciel étoilé, un peu mieux bah, voir ce qui se passe la nuit. Il y en a un autre, on a le projet de faire un observatoire photographique des paysages. Ça veut dire que l'on va prendre des photos régulièrement du paysage qui nous entoure pour voir comment est-ce qu'il évolue. Donc on pourra observer eh bien, comment est-ce que la végétation elle peut évoluer, elle peut partir ou revenir. On peut voir aussi comment la neige, en fil bah, du temps, elle reste là ou elle peut aussi disparaître. On a peut-être bah, des risques que l'on peut observer, par exemple le risque inondation. Ou alors le risque de tremblement de terre, on peut voir peut-être des éboulements aussi qu'on va voir dans l'évolution des paysages. Et puis bien sûr, on peut voir aussi comment l'homme, il occupent ce territoire-là. Peut-être qu'il y a des zones où on va créer des routes qui vont peut-être se fermer un petit peu et laisser place à la nature. Donc grâce à cet observatoire photographique des paysages, on va suivre cette évolution.
Pourquoi et depuis quand travaillez-vous au Géoparc ?
Alors moi, ça fait un an et demi que je travaille pour le Géoparc de Haute-Provence. Et avant, j'étais quand même dans la géologie parce que j'ai été géologue pétrolière. Donc je travaille dans le pétrole. Mais au fil de mes engagements aussi écologiques, j'ai décidé de changer un petit peu. Je me suis mis à travailler pour les musées, pour la science. Et je suis devenue médiatrice scientifique. Et je partage aujourd'hui la géologie, la science que moi m'anime. Eh bien, je la partage avec vous aujourd'hui.
En quoi consiste votre travail ?
Je m'occupe d'animer des ateliers pédagogiques qui existent déjà. J'en crée des nouveaux. Ensuite, je m'occupe aussi de tous les événements.
Que pensez-vous de notre ville et de ses alentours ?
Alors, Digne, la ville de Digne, elle a quelque chose vraiment de particulier. C'est déjà une ville où on s'y sent bien et on a multitude de choses à faire. Les acteurs culturels nous proposent énormément d'activités. Et puis, autour, le paysage est fantastique. On a un contraste entre cette montagne et puis cette plaine et ces plateaux. Donc, la géologie est fantastique, les paysages sont fantastiques et on a une diversité de biodiversité qui est incroyable. On a ces champs de lavande et on a les cultures des oliviers, on a la lavande sauvage. On a l'Isdelweiss, on a énormément de choses à voir, à découvrir, et ça ne s'arrête jamais. Je suis ravie de faire partie de l'aventure dinoise et de partager ce territoire avec vous.
Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Moi, j'aimerais vraiment continuer à faire ce qui m'anime, à vous proposer toujours de nouvelles choses, de nouveaux projets, travailler avec vous et puis continuer à faire partager cette science qui, des fois, fait un tout petit peu peur, la géologie, mais qu'on essaie de rendre accessible au quotidien pour que vous puissiez peut-être vous en inspirer pour vos futurs projets personnels ou peut-être vos futurs métiers qui vont vous inspirer, peut-être dans la science ou la géologie, qui sait.
Au Géoparc, les trucs que vous trouvez, vous les trouvez où ?
Alors, au Géoparc, des trucs qu'on peut trouver, on pourrait être plus précis même. Peut-être que tu veux parler des objets géologiques. Alors, on en trouve, bien sûr, et on en trouve quand on se promène avec le public ou même quand nous, on va reconnaître le territoire pour vous emmener ensuite. Il y a des objets qu'on va trouver. Mais ici, nous, on préfère laisser les objets sur place. Parce que si on les prend avec nous, ensuite, il n'y a que nous qui pourrons les voir. Donc nous, on veut que tout le monde puisse en profiter le plus possible. Donc si on trouve quelque chose de très particulier, ce qu'on va faire, c'est on va le prendre en photo, on va noter l'endroit où est-ce qu'on l'a trouvé. Et ensuite, on pourra montrer cet objet-là aux scientifiques. Nous, c'est ce qu'on préfère faire et ce qu'on conseille aussi à ceux qui veulent profiter du territoire. Eh bien, vous avez trouvé quelque chose, c'est incroyable. Mais si vous voulez que tout le monde puisse en profiter, laissez-le sur place et comme ça, d'autres pourront le voir encore en plus de vous.
Merci pour toutes ces explications.
Mais de rien.
Merci d'avoir écouté cet épisode sur le Géoparc de Haute-Provence, le premier au monde. À bientôt pour une nouvelle histoire au coin de la rue.
Merci de nous avoir écoutés pour cette émission enregistrée à l'école Joseph Reynac. On remercie Claire Lonzon pour les techniques et les idées. Mayana, la maman de Marouane, pour nous avoir accompagnés dans les rues de Digne. Les archives pour les photos anciennes. Le Géoparc qui nous a envoyé une représentante. Et l'Académie d'Aix-Marseille qui a financé le projet. Et bravo à la classe des CMB d'avoir fait ce merveilleux podcast.
Ce podcast a été réalisé avec les élèves de la classe de CM de l'école Joseph Reynac à Digne-les-Bains, un atelier radio mené par l'association Histoire de dire.